France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction. Avec vous, Mathieu Laurent, rebonjour.
Rebonjour Marie et bonjour à tous. Après une nouvelle nuit de frappe au Moyen-Orient, une nouvelle scène de confrontation, navale en l'occurrence, un pétrolier américain est en grande difficulté au large du Koweït. Précision de Nicolas Joly. Relevons que ces dernières heures, les groupes kurdes ont été particulièrement ciblés par Téhéran. L'Iran n'ignore pas que les États-Unis voient dans les combattants kurdes de précieux alliés. Éclairage de notre correspondant à Istanbul, Timur Öztürk, et puis un pari stratégique dont nous parlerons avec Tom Préel, doctorant au Centre européen de sociologie et de sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, en ligne de Souleymaniye au Kurdistan irakien. Boris Loumane nous expliquera que l'arsenal de la République islamique d'Iran a été lourdement diminué par les bombardements israélo-américains. Dans l'actualité française, le renvoi devant une cour criminelle du policier qui a tué Naël Merzouk le 27 juin 2023 à Nanterre. Le policier sera jugé pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre. Explication d'Anne Fauquemberg. Enfin, nous évoquerons avec Chloé Geffroy la disparition de l'écrivain portugais Antonio Lobos Antunes, auteur d'un tableau sans concession d'une société abîmée par la dictature et les colonies. Qui tient la mer, tient la terre, axiome militaire qui s'applique à ce front qui s'épaissit depuis le torpillage, hier par un sous-marin d'assaut américain, d'une frégate iranienne au large du Sri Lanka, 87 marins tués. Ce matin, un pétrolier américain ancré au large du Koweït est en feu. Bonjour Nicolas Joly.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Nicolas, les gardiens de la Révolution, il faut l'ajouter, affirment que ce sont eux qui ont touché ce navire.
Le navire a été touché par un missile dans le nord du Golfe Persique et est actuellement en feu. Voilà ce qu'ont indiqué tout à l'heure les gardiens de la Révolution, le bras armé du régime iranien, dans un communiqué. Message lu à la télévision d'État sans plus de précision. Il faut rester prudent car cette information n'a pas encore été confirmée par une source indépendante, mais ça ressemble fort à une réponse de l'Iran après que les États-Unis, vous le disiez Mathieu, ont coulé un navire de guerre du régime de Téhéran hier. C'était dans les eaux internationales de l'océan Indien au large du Sri Lanka. Washington a publié des images montrant la frégate couler en quelques instants après avoir été frappée par une torpille du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les autorités sri-lankaises ont annoncé avoir retrouvé 87 marins tués et recherché 61 disparus. On a trouvé des gens flottant dans l'eau et on les a secourus, a déclaré le porte-parole de la marine au Sri Lanka en leur posant des questions. On a compris que ces personnes venaient d'un bateau iranien. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, a dénoncé, je cite, une atrocité. Les États-Unis regretteront amèrement le précédent qu'ils ont créé, a-t-il menacé. Un second navire de guerre iranien est désormais en route vers l'océan Indien. Les autorités américaines, elles, ont affirmé avoir détruit 20 de ces bateaux au total.
Nicolas Joly, le ministère de la Défense espagnol, a annoncé ce matin l'envoi à Chypre pour des missions de protection d'une frégate qui accompagnera le porte-avions français Charles de Gaulle et d'autres bâtiments de la marine grecque après qu'une base militaire britannique sur cette île ait été atteinte par un drone. Doha a également été la cible ce matin de vagues de drones et de missiles iraniens. Explosion entendue à Manama, à Bahreïn. L'Iran a également lancé une nouvelle salve de missiles contre Israël, déclenchant des alertes dans plusieurs régions, dont celle de Tel Aviv, sans faire de victimes. À la frontière avec le Liban, ce sont des effectifs du Hezbollah qui livrent bataille contre des commandos israéliens qui prépareraient une incursion militaire d'ampleur. Il faut rappeler là que l'armée libanaise n'est pas en mesure de rivaliser avec l'armée israélienne. D'ailleurs, les gouvernements américains et israéliens soutiennent depuis hier que Téhéran répond de plus en plus faiblement à leur offensive après de lourdes destructions de leur arsenal. Qu'en est-il exactement, Boris Loumane ?
Depuis le déclenchement de cette guerre, Téhéran a envoyé plus de 700 missiles et un millier de drones en direction d'Israël et des pays du Golfe. Mais la cadence des tirs diminue de jour en jour. Concrètement, l'Iran a tiré 350 missiles le premier jour, 170 le deuxième, 120 le troisième, 50 avant hier, 40 hier. Et la tendance est à peu près identique pour les tirs de drones. Washington, de son côté, s'en félicite. L'Iran n'aurait plus que quelques jours de stock, d'après l'état-major américain. Une donnée toutefois difficilement vérifiable. Une chose est sûre en tout cas, les tirs iraniens sont moins nombreux. Tout d'abord parce que les États-Unis et Israël visent et détruisent en priorité les sites de stockage et de lancement des projectiles iraniens. Par ailleurs, en juin dernier, pendant la guerre de 12 jours, Téhéran avait déjà dû puiser dans son stock. Et depuis, les réserves n'ont pas été complètement reconstituées. Enfin, si les tirs iraniens sont moins nombreux, c'est aussi parce que les gardiens de la révolution le savent, la guerre sera longue et si l'Iran veut rester menaçant, le pays doit gérer au mieux son stock de missiles.
Boris Louman, quel rôle jouent les Kurdes dans cette guerre au Moyen-Orient? Ils représentent 10% de la population iranienne et sont majoritaires dans les provinces de l'ouest de l'Iran, à la frontière de l'Irak et de la Turquie. La population kurde, discriminée, nourrit en partie un sentiment indépendantiste. Les partis kurdes sont opposés de longue date au régime. Leurs militants sont réfugiés au Kurdistan irakien voisin, où ils disposent de camps d'entraînement. Des camps ciblés par l'Iran ces derniers jours, alors que la presse américaine publie des informations sur une éventuelle intervention kurde au sol, soutenue par l'aviation américaine et israélienne. Timur Sturk est à Istanbul. Bonjour Timur.
Bonjour à tous.
Tout d'abord, que sait-on, Timur, des frappes iraniennes qui visent les Kurdes?
Oui, le régime iranien affirme aujourd'hui avoir tiré 3 missiles sur le Kurdistan irakien, des tirs qui visent des bases des partis kurdes iraniens. Une source au sein de l'un de ces partis estime que depuis le début de la guerre, environ 30 attaques de drones ou de missiles du régime ont visé spécifiquement les militants kurdes. L'un de ces missiles a tué hier un combattant dans la province d'Erbil au Kurdistan irakien. De l'autre côté de la frontière, les bombardements américains et israéliens se multiplient sur des positions du régime. Ces frappes pourraient théoriquement servir à affaiblir l'Iran avant une offensive au sol des combattants kurdes depuis l'Irak.
Question encore, Timur, les Kurdes peuvent-ils lancer une opération militaire contre le régime ?
C'est ce qu'ont affirmé plusieurs médias américains, dont CNN, avec le soutien des États-Unis. Information démentie par la Maison-Blanche. Les partis kurdes iraniens affirment également que leurs troupes n'ont pas débuté d'action militaire en Iran. Mais la plupart de ces groupes, historiquement divisés, se sont réunis au sein d'une coalition il y a une dizaine de jours seulement. De combien de combattants disposent-ils ? On l'ignore, mais il est en revanche certain que leurs effectifs sont très largement dépassés par les capacités militaires de la République islamique, et qu'ils ne pourront pas agir sans le feu vert du gouvernement régional du Kurdistan irakien. Son président, Nershivan Barzani, a reçu ces derniers jours des appels de Donald Trump, mais aussi d'Emmanuel Macron, du ministre des Affaires étrangères turc ou encore du chef de la diplomatie iranienne, laissant entrevoir d'intenses tractations.
Timur Öztürk, envoyé spécial de France Culture à Istanbul, en Turquie. Des groupes kurdes donc courtisés par Washington et par là même par Israël. Un pari stratégique que l'on évoque à l'instant avec notre invité. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes Tom Préel, doctorant au Centre européen de sociologie et de sciences politiques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et en ligne de Souleymaniye au Kurdistan irakien. Est-ce que vous êtes à même, depuis Souleymaniye, de confirmer des franchissements de frontières de la part de groupes kurdes?
Alors non, il n'y a toujours pas eu de franchissement de frontières. Il y a une position d'attente pour le moment. On a assisté hier soir effectivement à une opération médiatique très large qui est principalement provenu des réseaux médiatiques israéliens et américains. Quel en était l'objectif? On ne sait pas vraiment. En tout cas, d'un coup, on a vu surgir cette news, soi-disant qu'une des opérations, sans vraiment savoir s'il s'agirait des Kurdes d'Irak ou des Kurdes d'Iran, serait en train de se mener, qu'il y aurait des passages de frontières. Ça a été démenti assez rapidement par les parties concernées, par les autorités politiques du Kurdistan irakien. Reste à savoir quel était l'objectif, à quel point est-ce que ça avait pu être coordonné avec les institutions militaires des pays concernés. Derrière cela, sans doute, une tentative de mettre la pression sur le gouvernement iranien, de leur faire penser l'imminence d'une potentielle opération et aussi d'envoyer les Kurdes vers le front et de faire un appel à cette mobilisation.
Timur Öztürk évoquait d'intenses tractations, une coalition de groupes kurdes il y a 10 jours. Est-ce que ces groupes armés kurdes pourraient jouer le rôle que leur propose Washington?
C'est une question qui est extrêmement sensible parce que, comme vous l'avez rappelé, la coalition en question n'a que quelques jours. Elle a été formée le 22 février. Ils n'ont même pas de représentants uniques. Il y a une pluralité de lignes politiques au sein même de ces groupes, entre eux, des groupes qui sont historiquement plus affiliés au PKK, d'autres qui sont financés par le PDK, qui est donc l'un des partis kurdes irakiens, qui ne sont pas sur les mêmes lignes, certains qui sont plus proches, donc des intérêts turcs. On a une variété de groupes qui se sont rassemblés, qui n'ont pas les mêmes lignes idéologiques, pas nécessairement les mêmes projets, pas du tout les mêmes moyens logistiques. Certains ont des combattants armés, formés, d'autres ont principalement des structures politiques, mais non militaires. Donc, ce qu'ils espèrent potentiellement, ça serait, à moyen terme, pouvoir prendre le contrôle des territoires kurdes si l'occasion se présentait. Mais pour le moment, c'est une opération qui représente énormément de risques parce que le gouvernement iranien continue de posséder des structures militaires qui sont extrêmement bien implantées dans la région, même si elles sont effectivement frappées de manière très régulière depuis une semaine avec un ciblage spécifique sur les gardiens de la révolution, sur les services de renseignement dans toutes les zones kurdes. Mais jusqu'ici, les partis kurdes de cette coalition ont annoncé rester en position d'attente, attendre une potentielle opportunité qui pourrait s'ouvrir, sachant que sans contrôle de l'espace aérien et sans un soutien permanent des frappes américaines et israéliennes, et aussi sans une autorisation du Kurdistan irakien, cette fois-ci, puisque une partie large de leurs combattants se situe dans les territoires kurdes irakiens, c'est une opération qui ne pourra pas voir le jour.
Alors, d'accord, vous avez dit des divergences, des équipements différents, mais un ennemi commun et possiblement une stratégie, un effet de cascade qui pousserait des gens à redescendre dans la rue en Iran et ainsi à déstabiliser, à fragiliser le régime.
C'est effectivement le projet. Je pense que la plupart des personnes concernées et à l'organisation derrière de ces opérations militaires savent que les Kurdes et n'ont pas les moyens logistiques de prendre Téhéran et de faire tomber le régime par eux-mêmes, et n'en ont pas forcément l'envie ou les velléités. L'idée derrière, en tout cas ce qui semble se dessiner, c'est effectivement une sorte d'effet domino. On sait qu'il y a d'autres communautés ethniques, d'autres groupes politiques qui sont mobilisés en Iran. On pense par exemple aux Baloutches. Et que l'idée serait sans doute de créer une sorte de front à la fois civil, d'appeler les personnes à redescendre dans la rue. Le ciblage massif de Téhéran vise aussi à fragiliser la bureaucratie iranienne et à pousser les gens à reprendre potentiellement les manifestations. Donc voilà, l'idée, ça serait une opération multiscalaire sur différents fronts, mais pour le moment, on reste en position d'attente en attendant de voir, pour les partis kurdes, quelles sont les opportunités qui vont s'ouvrir.
Bien, merci beaucoup. On terminera sur ces mots. Merci Tom Préel, doctorant au Centre européen de sociologie et de sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci d'avoir été en ligne de Souleymaniye au Kurdistan irakien. Et merci à Aloïs Guérin pour la préparation. La guerre au Moyen-Orient et ses rejaillissements sur les finances chinoises. Pékin annonce une hausse de 7% de son budget de défense pour 2026. Une augmentation destinée à renforcer sa dissuasion face aux États-Unis et sa posture vis-à-vis de Taïwan et des Philippines. Quelles conséquences cette fois de la guerre au Moyen-Orient ? En France, les prix des carburants sont notamment suivis de près. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a convoqué ce matin les principaux distributeurs de carburant à Bercy. Une réunion pour faire toute la transparence, dit-on, sur les prix. C'est d'ailleurs Maude Bréjon qui le dit de cette manière-là. Elle est ministre de l'Industrie. Et de s'assurer que les distributeurs ne profitent pas de l'envolée des prix du baril de pétrole sur les marchés pour augmenter excessivement les prix à la pompe. Jeanne Serra, bonjour.
Bonjour.
Jeanne, pour l'heure, la hausse de quelques centimes, mais la classe politique fait pression sur le gouvernement pour contenir l'envolée des prix.
Oui, comme à chaque secousse géopolitique au Moyen-Orient, les groupes politiques s'interrogent comment se protéger de la variabilité du prix du baril du pétrole et celui du gaz. Pour le député insoumis Éric Coquerel, interrogé ce matin sur France Info, il faut agir vite avant qu'il ne soit trop tard.
Moi, je préfère quand même prévenir que guérir. Or, on sait en plus que la question du carburant rentre dans le pouvoir d'achat des Français de manière importante, y compris souvent les Français les plus défavorisés. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à un blocage des prix. Un blocage des prix de façon à ce que, quelque part, on n'aille pas vers cette augmentation. Parce qu'une fois qu'on y sera, ça sera trop tard.
Pour le président de la Commission des Finances à l'Assemblée, c'est aux distributeurs de réduire leurs marges. Un non-sujet pour le PDG de Coopérative U, puisque selon lui, plus de 51% du prix à la pompe correspond à des taxes qui partent directement dans les caisses de l'État. Pour le Rassemblement national et Marine Le Pen, interrogée hier par nos confrères de RTL, la solution doit donc venir d'une baisse de la taxe sur les carburants, la TICPE, et de la TVA de 20 à 5%.
On ne peut pas imaginer, si vous voulez, que dans la situation que nous connaissons, une augmentation du prix de l'énergie permette à l'État de s'enrichir. Nous avons toujours considéré que l'énergie était un bien de première nécessité et que par conséquent, c'est un effort qu'il fallait absolument faire parce que cet effort est positif pour l'économie.
Une demande déjà rejetée par le gouvernement qui temporise et promet des contrôles pour s'assurer que les hausses de prix restent raisonnables.
Merci Jeanne Serrin. Dans l'affaire de la mort de Naël Merzouk en 2023 à Nanterre, la cour d'appel de Versailles a ordonné ce matin que le policier ayant tué le jeune homme soit jugé devant une cour criminelle pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre. Le fonctionnaire avait été initialement renvoyé devant la cour d'assises, mais il avait fait appel. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Anne, la cour d'appel de Versailles n'a donc pas suivi les juges d'instruction quant à l'intention homicide, c'est-à-dire la conscience de l'acte et de la volonté de tuer autrui.
Oui, dans son communiqué, la cour d'appel estime qu'il n'est pas établi que Florian M., le policier, était animé au moment du tir de la volonté d'ôter la vie au conducteur. Et elle précise que le fonctionnaire a pu avoir la conviction qu'en redémarrant, la Mercedes conduite donc par Naël Merzouk était susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique de tiers ou même à la sienne. Le policier est donc bien renvoyé devant la justice, mais pas pour meurtre. Cette décision ne satisfait personne, à commencer par Laurent-Franck Liénard qui défend le policier.
Pour nous, c'est une double déception. D'abord, la cour n'a pas eu le courage de prononcer le non-lieu qu'elle devait prononcer, puisque nous sommes dans un cas d'application stricte du droit, et mon client n'a fait qu'appliquer la loi. Donc c'est une première déception. La deuxième déception, c'est que par la cour criminelle, il va échapper au jury populaire, et nous pensions véritablement qu'un jury populaire aurait tout à fait compris le sens de notre position, et qu'il aurait eu le courage d'acquitter ce policier.
L'avocate Margot Pugliese, qui défend plusieurs membres de la famille de Naël Merzouk, était également très déçue.
On a du mal à comprendre comment un policier qui a tiré avec une arme de poing à bout portant, à bout touchant même, dans la poitrine d'un jeune homme de 17 ans, peut ne pas avoir eu l'intention de le tuer. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que la cour n'a pas retenu les circonstances aggravantes qui sont l'utilisation d'une arme et la qualité de policier de l'auteur de ces faits. Donc on attend la motivation écrite et le raisonnement qui a été tenu par la cour. Je vous avoue qu'on tombe un peu des nuls.
Enfin, pour l'avocat Franck Berton, qui représente la mère de Naël Merzouk, il s'agit également d'une décision scandaleuse et honteuse. Comme toutes les parties dans ce dossier, il annonce ce pourvoir en cassation.
Merci Anne Fauquemberg. La cour a par ailleurs confirmé le non-lieu d'un deuxième fonctionnaire de police, Julien L., qui était poursuivi pour complicité d'homicide volontaire. Médecin militaire pendant la guerre coloniale en Angola, psychiatre de formation, puis, à compter de 1985, écrivain à plein temps, Antonio Lobo Antunes est mort à l'âge de 83 ans. Il laisse une œuvre exigeante, mêlant roman, poésie et autobiographie dans un style baroque et métaphorique. Chloé Geffroy, Antonio Lobo Antunes, écrivain à l'aura mondiale.
Issu de la grande bourgeoisie portugaise, Antonio Lobo Antunes naît en 1942 à Lisbonne sous la dictature salazariste. Atteint de tuberculose, il découvre l'écriture dès l'enfance pour occuper ses journées qu'il passe alité. Une période de sa vie qu'il racontait en 2011 sur France Culture.
C'était marrant parce que vous mettiez les mots les uns après les autres et ça avait un sens, ça m'émerveillait. L'angoisse, ça vient plus tard, quand vers 14-15 ans, vous commencez à comprendre qu'il y a une différence entre bien écrire et mal écrire. Et vers 18-20 ans, vous découvrez qu'il y a une différence entre bien écrire et chef-d'œuvre. Et là, c'est le désarroi complet.
Antonio Lobo Antunes devient d'abord médecin et se spécialise en psychiatrie. Au début des années 70, il est envoyé comme médecin militaire pendant la guerre coloniale en Angola. À son retour, il devient psychiatre dans un hôpital de Lisbonne et connaît le succès dès son deuxième roman, Le cul de Judas, monologue d'un homme marqué par cette expérience de guerre.
Quand je suis rentré, c'est très étrange. C'est comme si j'avais eu un accident vasculaire cérébral. Il me fallait réapprendre à vivre.
6 ans plus tard, en 1985, il se consacre entièrement à l'écriture. L'univers de ses personnages dévoile, avec ironie, les conflits intérieurs d'une société portugaise marquée par 48 ans de dictature et les désillusions qui ont suivi l'avènement de la démocratie. En 1974, notamment dans le Manuel des Inquisiteurs. Auteur d'une trentaine de romans, Antonio Lobo Antunes s'était remis de 3 cancers tout en continuant d'écrire en moyenne un roman par an, mais il avait plus récemment cessé de publier. En 2007, il avait reçu le Camões, la plus importante distinction littéraire de la langue portugaise.
Chloé, j'ai froid. Quelques mots de la météo de l'après-midi avant de refermer ce journal. Après-midi lumineux, agréable, avec du soleil sur les 3/4 du pays. Douceur remarquable, avec toutefois des nuages et des averses au pied des Pyrénées et en Occitanie. Température comprise entre 15 et 20 degrés. Ce journal était préparé avec Axel Dubois, à la technique Anthony Thomasson.